Monsieur le Président, je suis infiniment touché des paroles trop honorables pour moi que vous venez de prononcer. Et je suis un peu confus et un peu gêné parce que je me demande maintenant comment je vais faire pour les justifier. Je ferai ce que je pourrai. Mesdames, Messieurs, la société de demain sera avant tout une société d'ingénieurs et de techniciens et ce sera une société planifiée. Car il s'agit pour elle de rendre d'abord les hommes heureux et pour cela de créer des richesses. Nous n'aurions pas d'excuses si nous laissions le royaume de ce monde où nous pouvons créer positivement et dès maintenant pour celui de la seule contemplation et de la spéculation pure. Cependant, beaucoup s'inquiètent d'un règne de la technique qui leur semble devoir écraser l'homme nouveau sous le poids d'un travail sans joie et sans valeur humaine, d'une société sans liberté, extérieure ou intérieure, d'une prospérité fermant les portes à la vie spirituelle. Et ils parlent volontiers d'une civilisation déshumanisée et privée d'âme. Ils considèrent les sociétés qui, dès maintenant, représentent ici ou là les formes les plus évoluées, les plus significatives du progrès technique, les unes confortables et les autres austères, les unes libérales, les autres totalitaires, et leur trouvant des traits communs et qui paraissent s'accentuer d'une manière presque grimaçante, ils craignent que le progrès matériel, loin de servir le progrès spirituel, l'entrave malgré toutes leurs promesses, comme le communisme qui nous promettait jadis la mort de l'État, semble nous engager dans le plus lourd et le plus durable des étatismes. Il y a dans ces discours beaucoup de fiction et de rhétorique stérile et même un peu déplaisante, et il y a tout de même un peu de vrai. Peut-être que le matérialisme, la vulgarité d'idéal de certaines démocraties libérales et riches, tels que leurs propres nationaux nous les représentent, nous offrent un péril aussi redoutable dans son genre que la tyrannie de démocratie populaire. D'où un examen de conscience nécessaire. Je vais essayer de reprendre un instant ces vieux lieux communs avec, je l'avoue, quelques sentiments de redite et d'inutilité. Et d'abord, je voudrais dire quelques dangers à éviter. Le mythe de l'âge d'or, qui nous propose comme idéal une société morte. Franchement, je ne crois pas que le XIIIe siècle chrétien soit malgré tout le paradis perdu où il nous suffise de revenir. Le second point, c'est de ne pas confondre les conséquences nécessaires du progrès technique avec les erreurs des techniciens ou les incidents historiques. De ne pas confondre ce qu'il implique avec ce dont il est simplement l'occasion. La physique atomique n'est pas responsable de la bombe du même nom, ni la médecine des morales biologiques successives, contradictoires et toujours dogmatiques. De même, ce n'est pas la technique qui a imposé la structure de l'Angleterre keynésienne, celle du sous-emploi, mais un ensemble de mécanismes de marché, d'égoïsmes collectifs inconscients et aussi de préjugés économiques qui ont créé, à l'intérieur même de la nation, ce circuit fermé de l'activité économique qui laisse en surnombre une masse de travailleurs chômeurs, comme un tourbillon stationnaire qui laisserait des zones mortes. Et la guerre, en rebrassant tout, a remis dans le circuit l'ensemble de la nation et elle a disculpé une fois de plus la technique. Et ce n'est pas celle-ci non plus qui est responsable de ces féodalités que j'appellerais verticales, qui viennent aujourd'hui quelquefois remplacer les vieilles féodalités horizontales et qui rendent solidaires, par exemple en ce moment, patrons, cadres et ouvriers de l'industrie dans cette inflation privilégiée, privée, qui confisquerait volontiers à son profit le bénéfice des productivités accrues et qui risque un jour prochain de créer une situation grave. Le troisième danger, c'est de parler de la société technique de demain comme si elle était déterminée dès maintenant. Ce qu'elle sera, c'est ce que nous la ferons. Le microbe technique trouve dans chaque société un terrain particulier qui cède ou qui résiste. Mais la médecine peut intervenir si l'on s'inquiète à temps. C'est ainsi qu'en Amérique, d'excellents auteurs s'interrogent de toutes parts, généralement d'ailleurs par souci de la puissance sociale, de l'efficience nationale. Ils s'inquiètent, dis-je, de cet idéal de médiocrité égalitaire et satisfaite qui généralise, dans le cadre même du capitalisme, et qui ne met rien à la place des vieilles vertus protestantes d'effort, de lutte, de courageuses entreprises, quelles qu'en fussent d'ailleurs autrefois les imperfections. Il est d'ailleurs bien difficile de dire si la société planifiée de demain sera d'un type uniforme. Sera-t-elle autoritaire ou libérale, nationaliste ou internationaliste, familiale ou brutalement communautaire? Sera-ce la contrainte ou la liberté sexuelle? La Suède et les États-Unis diffèrent beaucoup sur certains points, et le progrès technique tend en ce moment à accentuer en France des traits qui l'opposent aussi bien à la Russie qu'à l'Amérique. Il s'y conserve, il s'y développe, dirais-je, des ressources précieuses d'insociabilité accrues par l'urbanisation, un goût accru du secret et de l'indépendance. Le contrôle de l'opinion sur la vie morale et personnelle, il devient de plus en plus faible, l'éducation morale de plus en plus réduite. La famille bourgeoise couvre de plus en plus longtemps, des enfants d'ailleurs de moins en moins dociles. Une sélection à rebours s'y opère par la moindre fécondité des classes intellectuelles. Les classes n'y sont pas uniquement fondées sur l'argent. L'éducation littéraire y garde son prestige et beaucoup de jeunes ménages, même d'origine modeste, rêvent encore des domestiques de l'ancien temps. Mais il s'agit là sans doute d'un fait isolé et provisoire. Il y a, à ce qu'il semble, des caractères de convergence qu'impose à toutes les sociétés le progrès de la technique et de la planification. Comme le milieu marin donne un même faciès aux poissons, aux baleines, aux phoques. Et c'est pour cela que mon exposé n'est peut-être pas aussi absurde qu'il en a l'air a priori. Disons enfin, en de tels sujets, que nous devons toujours nous souvenir du proverbe grec suivant lequel tout amphore a deux anses, et qu'en matière d'institution, le bien est 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 d'institution, et qu'en matière suivant, le bien est d'institution, en matière d'institution. Il n'est pas question de décrire ici cette société type d'un avenir pas très lointain. Il faut tout de même en indiquer d'abord un tout petit peu les grands traits et voir comment on passe à leur sujet d'un problème d'efficacité et de bonheur à un problème de liberté, de culture et finalement de vie spirituelle. Essayons donc d'aller de l'extérieur à l'intérieur. Cette société sera industrialisée et planifiée. Le problème essentiel sera d'abord de construire et de consommer des richesses. Que l'on demande au public ses désirs ou qu'on les lui impose, peu importe. Les entreprises s'accroîtront, se concentreront, s'intégreront. À côté des laboratoires, des bureaux d'études et de prospectives prendront une part croissante du personnel. Les besoins des hommes seront prospectés, étudiés, aussi bien que les méthodes de recherche et d'invention. Et les machines nous permettront de recueillir, de classer, d'utiliser des données dont le nombre et la complexité nous découragent encore aujourd'hui. Tous les actes seront étudiés, analysés, codifiés, depuis la manière de serrer un boulon jusqu'à celle de parler à un ouvrier, à un client, à un concurrent. L'art de commander, de diriger, de conseiller, de persuader, de donner confiance cessera d'être intuitif et personnel et deviendra une science universelle et systématique. Cette société sera fonctionnarisée sans doute, en ce sens que d'une part les employés se trouveront assurés contre la maladie, la vieillesse, le chômage, le congédiement, ce qui effacera quelques injustices, en créera peut-être quelques autres. Et peut-être, ne serait-ce que pour se débarrasser de leur concurrence, donnera-t-on aux vieux des retraites honorables, voire des traitements complets. Cette société, dans son ensemble, sera urbaine, communautaire, hygiénique. Par grands immeubles, sans doute moins exigus et moins créateurs de névroses que nos HLM, ou bien par ensemble de pavillons, mais toujours standardisés. Nous vivrons en boîtes, plus ou moins spacieuses, mais toujours hygiéniques. Les enfants naîtront dans des cliniques aux berceaux semblables, aux nurseries du même blanc. Et les vieux mourront, non certes solennellement, entourés de leurs enfants et petits-enfants, mais industriellement, en clinique, eux aussi, en essayant de ne pas déranger. Après quoi, on les enterrera le plus discrètement et le plus gaiement du monde pour ne pas assombrir les vivants, le plus vite possible, afin de ne pas prendre à ceux-ci trop de temps sur leur travail ou sur leurs amusements. Beaucoup de questions se posent que je vais laisser tomber. Sera-t-elle politique ou démocratique? Sera-t-elle technocratique? Ressemblera-t-elle, dans son gouvernement nouveau des techniciens, à ce qu'était devenu l'Empire romain lorsqu'il fut, après avoir été le gouvernement des sénateurs, puis le gouvernement des chevaliers, celui des affranchis, les techniciens de leur époque. Des problèmes, comme l'actionnariat ouvrier, comme la cogestion ouvrière, n'auront plus d'intérêt, ces institutions ne tenant à cœur aux gens que comme artifice politique ou source de privilèges. Si l'idéal de Saint-Simon se réalise, l'administration remplaçant le gouvernement, le citoyen nécessairement passera au second plan. Sera-t-elle familiale? Peut-être, mais ce ne sera plus la même famille. Elle sera réduite, déracinée, fera de moins en moins l'éducation des jeunes, l'unité de pensée, d'idées, de croyances, y tiendra de moins en moins de place. Elle sera plutôt un centre de vie matérielle et affective. Cette société sera égalitaire, nivelée en tout, effort, mœurs, idées, soit par la volonté de l'État, soit par la contrainte de l'opinion publique. Les différences de revenus se cacheront. L'éducation collective, l'indépendance de la jeunesse vis-à-vis des aînés détruiront à la fois préjugés et traditions. Le langage s'uniformisera. Naturellement, ce sera un nivellement par le bas. Et l'on peut craindre que tout le monde ne se satisfasse un jour de parler et par là même de penser peuple au mauvais sens du mot. Peuple des faubourgs et non pas de la campagne. On se consolera en songeant que l'Athènes classique devait avoir un langage courant assez plébéien, si on en juge par les comiques. La langue tendra à s'appauvrir, à devenir peut-être une langue basique, aux nuances peu nombreuses et peu subtiles, si bien qu'au français de chez Dior succédera sans doute un français de Monoprix. C'est le cours normal de l'évolution sociale, aussi bien n'en sommes-nous pas esclaves. Le mal n'est pas sans remède, et peut-être dès maintenant pourrions-nous prendre des mesures pour empêcher certaines de ces dégradations. Cette société sera plus riche, plus confortable, dans l'ensemble sans doute plus heureuse et plus tranquille. Ce progrès matériel sera très grand dans l'ordre industriel et permettra même un immense gaspillage. Moindre dans l'ordre agricole, très réduit dans l'ordre des services, où la mécanisation et les meilleures méthodes de travail ne seront pas toutes puissantes. Et l'on ne peut rêver pour tous dans l'avenir de la vie confortable et bien servie de notre ancienne bourgeoisie. Tout de même, il n'y aura plus d'enfants abandonnés et de vieillards misérables. La souffrance sera réduite au minimum. Est-ce que ça signifiera le bonheur, ou du moins la satisfaction? Oui, si l'on ne songe qu'aux besoins réels et raisonnables, mais si l'on tient compte du besoin de luxe et de gaspillage, des dépenses d'imitation et d'ostentation, d'amour-propre et de prestige, comment répondre? Et il y aura toujours des motifs de mécontentement, d'inquiétude, de peur. Il y aura le fait même du travail, dont on exagère sans doute beaucoup actuellement le dégoût, lié, dit-on, à la mécanisation et au sentiment d'aliénation. Et on pourra, j'imagine, en réduire encore beaucoup, et la fatigue et l'ennui. Mais quel que soit le régime, quelques précautions que l'on prenne, jamais le travail n'apparaîtra dans l'ensemble comme un sport. Et peut-être que l'organisation et l'agrément accru des loisirs feront au contraire apparaître de plus en plus ce travail comme une servitude. Et le travail en équipe, anonyme, sur programme reçu, posera peut-être pour les intellectuels un problème plus difficile encore que pour les manuels. Il y aura de faire sensibilité au moindre recul dans le salaire, ressenti comme une déchéance. Il y aura la crainte et la préparation de la guerre, car la préparation par la pression des peuples de couleur sera constante. Il y aura l'intoxication de la société par la proportion accrue des vieillards, des infirmes, des débiles. Il y aura débile. Vrai au cours d'une même existence, et chaque fois plus difficilement. Il y aura peut-être, dis-je, le sentiment. Sans plus en plus ce travail comme une servitude. Et le travail en équipe, anonyme, sur programme reçu, posera peut-être pour les intellectuels un problème plus difficile encore que pour les manuels. Il y aura la crainte et la préparation de la guerre, car la préparation par la pression des peuples de couleur sera constante. Il y aura l'intoxication de la société par la proportion accrue des vieillards, des infirmes, des débiles. Il y aura débiles. Fois au cours d'une même existence, et chaque fois plus difficilement. Il y aura peut-être, dis-je, le sentiment. De n'avoir qu'une expérience vaine, d'être prématurément usé, comme le. Il y aura peut-être l'ennui global et la mauvaise conscience d'une société arrivée en un certain sens. Sans cette société, sera-t-elle une société d'hommes libres? Le tableau est beaucoup moins, plus en plus étroit de tous, dans toute l'existence. Peu à peu, la société entière sera mise sur par la police que par les entreprises commerciales, comme client, comme citoyen. On détaillera statistiquement nos goûts.